Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Publication lundi des décrets du dicastère pour les causes des saints approuvés par le pape. Célébration du dimanche des rameaux en Terre Sainte. Au Cameroun, l'entrée dans la Semaine Sainte a été couplée des célébrations diocésaines de la 40e journée mondiale de la jeunesse. Vous aurez les détails de tout ceci dans l'actualité de l'Église, qui nous conduira aussi en République démocratique du Congo. Le général Brice Oligui Nguema, élu président du Gabon avec plus de 90% des voix selon des résultats provisoires. Des attaques dans les nord Darfour au Soudan qui entre mardi 15 avril dans sa troisième année de guerre. Nous en parlerons dans l'actualité sociale et politique en Afrique qui nous conduira aussi en Algérie. Des impacts sur les pays africains, des nouveaux tarifs douaniers annoncés par Donald Trump. Vous écouterez un décryptage dans cette édition. Vous suivrez également une analyse sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Publication des décrets du dicastère pour les causes des saints. Lundi 14 avril, au cours de l'audience accordée au cardinal Marcello Semeraro, préfet du dicastère pour les causes des saints, le pape François a autorisé la publication des décrets concernant le miracle, le martyr et les vertus héroïques d'une religieuse indienne, des trois prêtres, un brésilien, un belge et un italien, et d'un laïc espagnol. Ce laïc espagnol est Antoni Gaudi, architecte connu pour avoir dirigé la construction de la basilique Sagrada Familia à Barcelone, en Espagne. Un nouveau décret pour plus de transparence concernant les intentions des messes. Le dicastère pour les clergés a mis à jour les règles sur la discipline relative aux intentions des messes et à toutes les offrandes du peuple de Dieu. Le dicastère introduit des règles plus claires pour garantir la transparence, la rectitude et le respect de la volonté des fidèles sur la destination de ces offrandes. Le décret approuvé par le pape François sous une forme spécifique le 13 avril entrera en vigueur le 20 avril prochain, le dimanche de Pâques. Semaine Sainte en Terre Sainte. Dans son message pour la procession des rameaux, le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pierre-Baptiste Pizzaballa, a rappelé la vocation de la ville sainte et invité les fidèles à ne pas céder à la peur de ceux qui veulent diviser, de ceux qui veulent exclure. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit au Cameroun, où le dimanche des rameaux a été une journée spéciale. Les célébrations diocésaines de la 40e journée mondiale de la jeunesse qui ont eu lieu en ce jour, ainsi que l'entrée en la Semaine Sainte, ont été plus qu'un événement traditionnel concomitant. On a assisté dans plusieurs diocèses à une grande démonstration de la capacité des jeunes à se mobiliser, à redynamiser et à revitaliser la marche de l'Église en Afrique et dans le monde. Illustration dans les diocèses de Kumbo, Douala, Edeya et Bouya, Paul Valéry Mendogo.
Premier arrêt dans la partie anglophone du Cameroun, diocèse de Kumbo, des chants chrétiens de ralliement, tout un déploiement remarquable de la jeunesse. Le collège Saint-Sylvestre de Sop a constitué le point de convergence et de rassemblement de ces milliers de jeunes qui criaient « Hosanna au fils de Marie ». Dans l'archidiocèse de Douala, ils étaient également des milliers autour de l'archevêque Monseigneur Samuel Cléda pour clôturer la première période du synode diocésain triennal pour les jeunes de Douala. Monseigneur Cléda a publié à cet effet une exhortation qui pose le diagnostic sur la situation actuelle des jeunes et fait des recommandations irrelatives.
Nous avons pu réaliser ce que nous avons prévu, nous mettre à l'écoute de jeunes, les comprendre et prendre en compte leurs différentes aspirations.
Tandis que dans le diocèse d'Edea, des centaines de jeunes ont passé 3 jours à la paroisse Saint-Joseph Artisan de Dizangué pour le même événement. Dernier arrêt, le diocèse de Boya, Monseigneur Michael Bibi a appelé les jeunes à plus d'engagement dans l'Église. Il leur a recommandé d'annoncer le Christ avec fierté en parole et en acte et d'apprendre à devenir des leaders exemplaires, fermes dans leur foi malgré les multiples défis qui s'imposent à eux. Paul Valéry Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Vice-sacerdotal du prêtre diocésain de Boma face aux exigences de la synodalité, Tel était le thème de journée presbytérale 2025, présidée par l'évêque de Boma, Mgr José-Claude Mbimbi, du 9 au 10 avril. Le diocèse de Boma est situé au sud-ouest de la République démocratique du Congo. L'évêque a célébré la messe chrismale jeudi dernier, par anticipation, comme dans beaucoup d'autres diocèses. Jean-Baptiste Malengue pour plus de détails.
230 prêtres diocésains ont participé aux journées presbytérales du 9 et 10 avril. Le diocèse de Boma est le moins vaste en superficie des 47 diocèses du pays en dehors de l'archidiocèse de la ville de Kinshasa. Et Boma est le plus peuplé en prêtres diocésains avec plus de 300 membres. Vivre la synodalité autour de l'évêque diocésain est donc nécessairement un enjeu fondamental pour faire église. Les journées presbytérales ont donné l'occasion, par exemple, d'écouter le rapport sur la vie et la pastorale dans les 9 doyennés du diocèse, mais aussi le rapport des journées presbytérales de l'année 2024. Et dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, l'évêque de Boma, Mgr José-Claude Mbimbi, a présidé le jeudi 10 avril en soirée la messe chrismale pendant laquelle les prêtres ont renouvelé leurs promesses sacerdotales. L'évêque a insisté sur la communion et la charité. « Marchons ensemble sur les chemins de la fraternité », a-t-il insisté. L'évêque a béni les saintes huiles et les prêtres, munis de ces huiles pour les sacrements que seul l'évêque doit bénir, sont retournés dans leurs paroisses respectives pour la célébration de la Semaine Sainte. Jean-Baptiste Malengue, Kalunzu pour Radio Vatican.
Actualité sociale et politique en Afrique. Au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président avec plus de 90% des voix, 19 mois après les coups d'État d'août 2023, selon les résultats provisoires annoncés dimanche au ministère de l'Intérieur. « Je tiens à saluer la maturité du peuple gabonais », a-t-il déclaré, appelant chacun à attendre la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle pour célébrer la victoire, a-t-il ajouté. Alors que la guerre au Soudan entrera mardi 15 avril dans sa troisième année, une série d'attaques meurtrières continue d'endeuiller le nord Darfour. Augustine Passili revient sur ces derniers développements.
Vendredi 11 avril, les forces de soutien rapide ont lancé une nouvelle offensive sur la dernière capitale du Darfour qui leur échappe, El Fasher. Les paramilitaires ont également attaqué deux camps de déplacés situés à proximité, Zamzam et Abou Chouk. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a condamné la mort de nombreux civils ainsi que de 9 membres du personnel de l'organisation Relief International tués dans un centre de santé de Zamzam où ils fournissaient une aide médicale d'urgence. Cela porte à plus de 90 le nombre de travailleurs humanitaires morts au Soudan depuis le début du conflit le 15 avril 2023. Toujours au nord Darfour, les FSR ont annoncé avoir repris la ville d'Oum Kadada jeudi. Un comité de résistance locale estime qu'au moins 56 civils ont péri dans cette attaque. Le calendrier de ces nouvelles violences correspond au deuxième anniversaire de la guerre qui oppose les FSR à l'armée soudanaise. Le chercheur soudanais Souleymane Baldo m'expliquait que les FSR cherchent à tout prix à lancer un assaut final sur El Fasher qu'ils assiègent depuis bientôt un an. Ils veulent absolument reprendre la ville avant le 15 avril. Augustine Passilly pour Radio Vatican.
Les autorités algériennes ont demandé à 12 fonctionnaires français en poste en Algérie de quitter leur territoire, a annoncé lundi le chef de la diplomatie française, précisant que cette décision était une réponse à l'arrestation des 3 ressortissants algériens en France. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a demandé aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion, selon lui, sans lien avec la procédure judiciaire en cours. Les nouveaux tarifs douaniers annoncés en grande pompe par Donald Trump le 3 avril dernier touchent les continents africains à des degrés différents. Certains pays comme le Lesotho et Madagascar se voient lourdement pénalisés. Ces hausses des taxes ont d'ailleurs suscité une réaction forte de l'Union africaine, qui considère cette guerre commerciale comme un obstacle à des relations économiques durables. Décryptage des conséquences possibles de cette guerre commerciale dans les pays africains avec Léo Charles, maître des conférences en sciences économiques à l'Université de Rennes 2 et spécialiste des questions des mondialisations et des politiques commerciales.
Globalement, tous les pays dans le monde et a fortiori tous les pays africains sont touchés avec une taxe minimum de 10% sur leurs exportations vers les États-Unis. Donc ça, c'est un minimum qui est commun à tous les pays africains. Ensuite, on a des pays qui sont notamment beaucoup plus durement touchés, comme par exemple le Lesotho, qui est taxé à hauteur de 50%. On a Madagascar et Maurice qui sont respectivement taxés à 47 et 40%. Le Botswana à 37%. Donc le Cameroun est taxé à 11%. Mais pour cette économie, ça sera quasiment un dollar puisque le marché américain ne représente pas un marché très important pour les exportations camerounaises. Et donc, il y aura aucun souci à ne pas subir ces droits de douane qui non seulement sont faibles, mais en plus, voilà, les États-Unis ne représentent pas un marché primordial pour le Cameroun, donc ça risque d'être un pays africain qui va bien s'en sortir. Il y a un certain nombre de pays qui sont quand même très 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 taxés dans ces premières annonces de Donald Trump.
Comment comprendre que le Lesotho, petit royaume d'Afrique australe, soit en tête de la liste des nombreux pays frappés par les droits de douane additionnels massifs présentés le 3 avril dernier par le président américain?
Dans sa logique néo-mercantiliste, Donald Trump et son administration se focalisent sur les déficits commerciaux. Pour lui, un déficit commercial des États-Unis envers un partenaire, c'est forcément le signe que ce partenaire se protège, parfois de façon illégitime du point de vue du président nord-américain. Le calcul des droits de douane, de la protection, c'est tout simplement le déficit commercial divisé par la somme des importations des États-Unis en provenance de ce pays, et ça nous donne un pourcentage de protection. Il le divise par deux et ça donne le pourcentage de réplique de droits de douane réciproques mis en place. Et donc, en fait, le Lesotho est un peu victime de ce calcul-là, puisque le Lesotho a un fort déficit commercial relativement à la taille de son pays, parce que le Lesotho exporte certaines matières premières nécessaire à l'industrie nord-américaine, mais importe très peu de biens américains, puisque que ce soit pour les services ou pour que ce soit les biens finis industriels, les Nord-Américains exportent des biens à forte valeur ajoutée que le Lesotho ne peut pas se permettre d'acheter.
Quel impact ces droits de douane peuvent avoir sur le continent si elles sont maintenues après cette pause de 90 jours?
Le coup va être très très dur pour le continent africain. Maintenant, il faut différencier en fait les pays, les secteurs qui vont être touchés. Par exemple, l'Afrique du Sud a une économie largement tirée par ses exportations et le marché américain est un très grand marché pour ses exportations. Mais, par exemple, l'Afrique du Sud a les moyens de négocier avec Donald Trump et a déjà entamé des négociations bilatérales avec Donald Trump. Des pays comme ce que je citais, par exemple le Lesotho, là, ça risque d'être très, très, très compliqué puisque le Lesotho a un déficit commercial avec les États-Unis qui n'est pas non plus énorme, c'est quelques millions de dollars. Mais en fait, le Lesotho n'a aucun moyen économique d'acheter plus de produits américains. Et donc là, on risque de lui couper une de ses exportations qui fait survivre un peu le pays.
Léo Charles, maître des conférences en sciences économiques à l'Université Rennes 2 et spécialiste des questions des mondialisations et des politiques commerciales. Des propos recueillis par Augustine Asta. Alors que l'Est de la République démocratique du Congo continue de souffrir des effets dévastateurs des conflits armés, des déplacements massifs des populations et des violences systématiques des droits humains, plusieurs pays africains continuent d'exprimer leur solidarité et organiser des événements visant également à mobiliser les consciences, comme c'était le cas dernièrement avec Amnesty International Kenya à Nairobi. Dans une interview accordée à Radio Vatican, Jean-Maubert Senga, ancien membre de cette ONG, a identifié la défaillance de l'État congolais comme cause principale au drame sécuritaire et humanitaire qui sévit en RDC. Il a salué également l'initiative Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs menée par les églises catholiques et protestantes de la RDC.
Mon opinion personnelle, j'insiste sur le caractère personnel, c'est que la cause principale, profonde principale de toute cette situation, c'est la défaillance de l'État congolais lui-même. l'État qui ne sait pas protéger ses frontières, protéger ses citoyens, rendre justice de manière juste et équitable à toutes les communautés et distribuer les ressources du pays, que ce soit la terre ou juste voilà, les ressources de manière générale, assurer les services publics de base comme la police, la sécurité, les transports, etc. Donc c'est ça la cause principale. C'est pour cela que vous avez une multitude de groupes armés qui pullulent dans cette région depuis 30 ans, parce que l'État n'est même pas capable d'assurer ce que les politologues appellent le monopole de la violence. Donc chaque communauté, chaque groupe peut prendre des armes et prétendre se défendre elle-même. C'est ainsi que des pays comme le Rwanda peuvent agresser la RDC, venir y faire tout ce qu'ils veulent, rentrer chez eux sans être inquiétés. Ce n'est pas que le Rwanda, il y a d'autres pays. Donc tout le monde qui veut peut venir au Congo, faire ce qu'il veut et rentrer chez lui sans problème. Donc ça, c'est la cause principale. Maintenant, les facteurs sont très nombreux, qui amplifient, donc qui profitent de ce vide d'État pour amplifier le conflit et l'entretenir pendant, on parle de 30 ans, mais en fait on pourrait remonter à beaucoup plus loin que cela. Depuis l'indépendance, le Congo n'a jamais été véritablement stable.
Vous avez parlé des causes profondes, en l'occurrence la défaillance de l'État. Y aurait-il selon vous d'autres facteurs externes qui empêcheraient justement de trouver des solutions pacifiques et durables face à ces conflits à l'est de la RDC?
Non, comme je l'ai dit, ce n'est pas la cause principale, c'est la défaillance de l'État lui-même dans ses fonctions régaliennes de sécurité, de justice, d'économie, des services publics. Et puis les autres, ce sont les facteurs. Les facteurs externes, oui, je venais de le dire, au niveau de la région, vous avez donc les velléités de ces pays, que ce soit des velléités économiques, démographiques, économiques, des pays comme le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, et de tous les pays en fait. Si on va plus loin, l'Angola n'en fait pas moins avec le pétrole de Mwanda ou l'enclave de Cabinda. La Zambie, il y a eu à plusieurs reprises des incursions et même des occupations de l'armée zambienne du territoire congolais sans qu'il se passe rien. La Centrafrique, c'est pareil, le Soudan du Sud, tous les pays qui nous entourent peuvent profiter de cette faiblesse-là. Et puis au niveau plus large, au niveau international, je pense que c'est plutôt une sorte de manque de lucidité, de manque d'intérêt peut-être même de la part des grandes puissances pour résoudre le problème du Congo de manière durable. Et aussi le fait que ces puissances-là ne font pas forcément le lien entre la gouvernance du Congo, sa gouvernance politique et l'instabilité.
Et dans un tel cas, que doit faire davantage le gouvernement congolais selon vous ?
Si vous voulez une réponse honnête, je pense qu'il ne peut plus rien faire aujourd'hui. Je pense que la meilleure chose qu'il pourrait faire, c'est peut-être de démissionner et de laisser la place à un pouvoir, une sorte de transition, peut-être dirigée par des personnalités civiles, issues de la société civile, et qui pourraient réorganiser les choses avec le soutien de la région et de la communauté internationale. Je ne vois pas une autre issue. Toutes ces histoires qu'on voit, Doha, Luanda, aujourd'hui, etc., le fait qu'on propose, c'est scandaleux, de donner les minerais du Congo aux Américains pour protéger non pas le Congo, mais le régime de Tshisekedi, et tout ça, enfin, ça ne contribue en rien à résoudre les problèmes des gens qui ont fui leur maison, qui ne connaissent pas leur lendemain. Donc je crois que la paix véritable peut venir par des acteurs qui soient plus neutres, plus lucides, plus courageux, qui rassurent tout le monde et qui peuvent essayer de traiter les problèmes fondamentaux que j'ai décrits tout à l'heure.
Monsieur Jean Maubert, en parlant d'acteurs neutres à ces conflits, comment appréciez-vous l'initiative de la CINCO-ECC pour la pacification du pays ?
C'est une initiative louable et c'est probablement l'initiative la plus sérieuse qu'on ait vue ces dernières années en RDC. Malheureusement, elle est en train d'être sabotée par, encore une fois, le régime à Kinshasa, qui est plutôt préoccupé par sa propre survie que par la survie du Congo et des Congolais eux-mêmes. Et donc c'est une initiative qui mériterait plus de soutien à la fois des acteurs congolais et de la région et de la communauté internationale dans son ensemble. Parce qu'il propose véritablement une remise sur la table des questions fondamentales que j'ai évoquées, de gouvernance, d'identité, de terre, etc. Ensuite, une sorte de pacte régional qui permettrait à tous les pays dans la région de tirer profit de la paix plutôt que de la guerre.
Vous venez de suivre Jean-Maubert Senga, ancien membre de l'ONG Amnesty International. Il répondait aux questions de Christian Losambe.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.